Cinéma du réel et du propose en juillet 2020 une programmation en plein air de films de la sélection française de la 42e édition du festival. Entretien avec Gaël Boucan autour de son film J.A. mené par Pauline Rigal, cinéaste et éditrice de la revue Les Saisons. Artiste et cinéaste, la pratique de Gaël Boucan se concentre depuis 10 ans sur la réalisation de documentaires au sein desquels les questions du portrait et du dispositif filmique tiennent une place centrale. En 2015, elle fonde la société Elinka Film avec 4 autres cinéastes et réalise Changement de décor, deuxième volet de la trilogie amorcée avec J.J.A. en 2012. En 2020, J.A. clôt la trilogie.
Bonsoir Gaëlle.
Bonsoir.
Alors, c'est un portrait et aussi, on pourrait dire, un autoportrait de cinéaste. Tu es là, présente avec lui dans le film.
Oui. Oui, je pense que je ne l'avais pas envisagé comme ça. Mais de fait, il y a une part d'autoportrait dedans, dans le sens où ce pourquoi je viens à ses côtés, c'est ce qui nous réunit, qui engendre ce mouvement-là, à savoir tout ce qui tourne, les questions qui tournent autour de la judéité, etc. Et c'est quelque chose aussi, c'est l'endroit de rencontre entre nous. Et ouais, donc quelque part autour de, et le film va un peu évoluer autour de ces questions-là, de qu'est-ce que c'est que l'identité juive aujourd'hui, comment ça peut être vécu, etc. Et je pense que ces questionnements-là, c'est les miens, c'est plus les miens que les lui, les siens. Mais...
Donc un autoportrait à travers un portrait à travers un lien intime et familial, mais aussi d'un film en train de se faire. On te voit construire le film avec lui, tâtonner, vous poser la question des archives.
Ouais, tout à fait. Je pense que il y a beaucoup le comment dire. Il y a cette idée qu'à la base il y a de sa part une sorte de récit identitaire qui est assez fort en fait, qui pour moi constitue une forme de fiction en soi. Et donc c'est un film en train de se faire, mais c'est aussi c'est quelque part une fiction en train de se défaire et une autre fiction en train de se faire. Il y a un peu cette idée-là, qu'il y a quelque chose qui se déconstruit, et à la place de ce quelque chose qui se déconstruit, il y a quelque chose qui émerge. Et donc, il y a un film qui aurait pu être qui se déconstruit, et un autre qui se crée à la place.
Tu prends les risques dans le film de laisser apparentes ces allers-retours, ces hésitations.
C'est complètement une... Une forme de processus en mouvement, le film, ouais, qui filme tout le cette idée-là.
Et on dirait que on ressent que la seule relation possible avec lui semble être donc le film. Et dès le récit que tu fais dans la voiture, du premier moment où tu as été seule avec lui quand tu avais 14 ans, et il t'est venu l'idée d'un film, tu lui confies ça. Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans ce geste documentaire qui s'installe dans la durée, donc sur plusieurs années, à faire le portrait de cet homme, ton grand-père?
J'ai eu l'impression que, au moment où, effectivement, la première fois, il m'a raconté son histoire, à 14 ans, j'étais assez jeune, mais je pense que j'avais une sorte d'intuition comme ça, que ce récit avait faisait des appels à des choses, des échos assez importants avec ce qui pouvait, avec des choses importantes de notre époque, une sorte de, comme ça, de récits qui avaient une complexité et aussi d'expérience, en fait. Et je pense que c'est né de ça, de la complexité de l'expérience de sa vie, c'est-à-dire à la fois c'était un personnage vraiment très représentatif de l'avènement du capitalisme, etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui avait vécu... le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et en même temps, quelqu'un qui Mais ça, je peux pas vraiment dire si j'avais cette intuition-là aussi jeune, mais enfin, qui sait se raconter, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Donc, mais je pense que si, enfin oui, c'est-à-dire que c'est, enfin, une somme de choses qui aiment se mettre en scène, qui aiment raconter et qui aiment parler de lui. Donc il y avait une somme de
parler de lui comme d'un petit bonhomme à ce moment drôle. Où...
ouais. Ouais, que... ouais. Je pense qu'il, enfin, à travers les trois films, il cherche à chaque fois, enfin, mais je l'accompagne aussi là-dedans, et c'est vrai que, enfin, on a trouvé ça à deux, mais quelque part, il cherche à chaque fois d'autres modes de représentation de lui-même. On cherche ça ensemble. Donc ça, c'est sa proposition dans le troisième film. Mais effectivement, il a une sorte de distance, enfin, qui est assez peu commune, je pense, avec lui-même, enfin, avec sa propre représentation.
Et alors, comment vous avez envisagé ce troisième moment, ce troisième film, après le temps que vous avez passé ensemble à entrer dans le récit de sa vie, etc.
Alors, en fait, parce que je réfléchis, s'il y a vraiment eu un temps où on est rentré dans le récit de sa vie. C'est-à-dire que... quoi, dans le premier film, dans GGA, il est plutôt en... Pour moi, ça tourne quand même beaucoup autour de sa réussite économique, il y a quelque chose comme ça. Dans le deuxième, finalement, on a assez peu parlé vraiment de ce récit-là. Et dans le troisième, finalement, ce dont je voulais parler, c'était quelque chose dont il ne voulait pas parler. Enfin, ce qui, moi, m'a amené là, enfin, pour moi, le film conducteur comme ça, du troisième film, c'est le... Je pars de cette idée de pourquoi... a-t-il changé de nom trois fois dans sa vie ? Parce que c'est quelque chose qui n'était pas abordé du tout dans les deux premiers volets de... Et c'est une question qui peut... qui est assez compliquée, parce que c'est pas du tout les mêmes raisons, en fait. Ça évolue dans le temps, et c'est pas du tout les mêmes époques, les trois fois où il change de nom. Mais c'est toujours lié à son rapport à lui changeant à sa judéité. Parce que puisqu'il s'appelait Aaron... puis au monde, puis il décide de réadopter son nom d'enfance, Aaron. Avec d'autres passages pendant la guerre par des noms de substitution pour se cacher. Moi, je voulais partir de ça. Et quelque part, oui, lui voulait se raconter plus à travers, je pense, une sorte de grand récit à travers des images, en fait. Il voulait comme ça qu'il y ait un récit qui se construise à travers les images, avec sa représentation, etc. Et je pense qu'il y a un endroit où on au début du film, on avance ensemble, et le moment de rupture représente aussi cet endroit où il n'y a plus d'images possibles, parce qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'en existe pas, du moment clé, en fait, qui engendre le film et ces histoires de changement de nom. Ouais.
Et ce moment de rupture, vous l'aviez pensé ensemble ?
Non.
Non.
Non, non, c'est un vrai moment documentaire, le moment de rupture. On l'a pas pensé ensemble, mais par contre, oui, enfin, on l'a vu venir, quoi. Non, c'était pas réfléchi. Et de fait, le film a mis du temps à avancer après. Hein. Enfin, ouais. C'était pas réfléchi. Je pense vraiment qu'au moment où je mets le doigt sur cette période-là, en fait, sur la période de la guerre, etc., lui veut plus être là. Enfin, donc, y a un lien que lui fait pas directement dans ce qu'il raconte. Mais...
Alors j'ai pensé au film Une sale histoire de Eustache, un film en deux temps, avec la réalité écrite qui va tenter de rejouer le réel, de reprendre les mêmes pas. Et là, dans le film, on tente sans cesse de se souvenir, de revoir, de reconstruire le récit de l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que dans J.A., il y aurait une mise à l'épreuve du réel, ou d'une vérité documentaire ?
Enfin, quelque part, oui, dans le sens où, en fait, Enfin, je dirais aussi une mise en perspective. Enfin, y a cette idée que, comme c'est un film en trois parties, en tout cas, tout ce qui est tout ce qu'on voit qui a un vrai, enfin, un statut documentaire, quelque part, est sans cesse mis en perspective avec deux autres dispositifs filmiques. Donc l'idée, c'était un peu que la façon de raconter de ces trois dispositifs, enfin, chaque façon vienne, chaque partie du film vienne dialoguer avec les autres et permettre de comprendre différemment les choses. Et après, oui, dans le sens où les images vraiment documentaires, ou les parties, quoi, les éléments documentaires qu'on étudie ensemble au début du film, finalement, sont pas ceux qui vont nous permettre d'avancer. Enfin, et finalement, je dis d'avancer parce que c'est aussi pas ceux qui vont nous permettre de déconstruire ce qui me paraît intéressant de déconstruire. Enfin, c'est-à-dire d'aller creuser un peu derrière cette espèce d'identité un petit peu presque superficielle qu'il expose comme ça au début du film, à travers son rapport à Israël, etc. D'aller essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui fait qu'à 90 ans, quelqu'un reprend son nom d'enfance. Et quelque part, c'est tous les documents qu'on trouve qui sont purement de l'ordre factuel, enfin des documents factuels, nous font jamais avancer. Enfin, ce qui nous fait avancer, c'est de l'interaction, c'est ce qu'on a ensemble, quoi. Mais ouais.
Et d'ailleurs, on sent une forme d'hostilité ou de parfois votre communication, vos échanges sont assez rudes. Et pourtant, on sent que vous vous comprenez de façon assez évidente.
Oui, parce que je pense qu'on sait l'un et l'autre où on est, en fait. On a déjà fait quand on tourne, on a déjà fait deux films ensemble. Et puis il le dit par moment, mais on sait qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses. Et on sait qu'on est... on se connaît. Au bout du troisième film, on se connaît. C'est-à-dire que dans le premier, on se connaît vraiment très mal. On s'est vu une fois ou deux dans nos vies. Enfin, très peu, quoi. Et dans le troisième, on commence à se connaître. Donc on sait que... Enfin, il sait... Ouais. Je pense qu'on la sent, cette intimité-là aussi.
Et alors, il y a comme des îlots de mémoire. Et je pense à ce plan donc, du jeune homme de 14 ans. Qui arrive dans la montagne et qui est entouré de taches d'eau. Et donc le montage du film est fracturé et il y a une forte liberté d'aller-retour dans les réminiscences, comme si le film allait retrouver, chercher les images manquantes dont tu parlais. Donc cette période-là, tu ne parles pas.
Oui, moi, j'ai souvent eu l'impression... Enfin, en le montant, j'ai eu l'impression que c'était un film qui... Quoi, un peu comme... comme les cartes à jouer quand on découvre une partie et qu'il y a quelque chose qui se découvre derrière. Enfin, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a comme ça des espèces de strates et qu'il y a effectivement des îlots ou des strates qui se découvrent, quoi, au fur et à mesure de cette déconstruction-construction, quoi, de cet autre récit qui s'annonce. Oui, après, et je pense que lui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est, dans Gigia, il y a aussi... Enfin, dans le premier film, lui, sa façon de raconter les choses, de toute façon, est tout le temps tellement fragmentaire qu'il n'y avait pas de grand récit possible. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, jamais... J'ai l'impression que même quand il dit qu'il en a envie ou que c'est ça qu'il voudrait, en fait, les choses ne se lient jamais de façon vraiment chronologique. C'est sans doute mon interprétation aussi, donc c'est comme, mais en tout cas dans aucun des trois films vraiment il y a cette appréhension là de son histoire. Enfin,
et pourtant il a écrit un livre et à un moment dans le film il raconte de façon très décidée comme ça les périodes de sa vie.
Oui, parce que je sens qu'il a très envie d'ordonner les choses en fait, effectivement. Et mais parce qu'il l'a pas écrit seul le livre, on l'a aidé à l'écrire et que quelque part je pense qu'il a ce désir d'ordonner les choses, ouais.
Et c'est là où je disais que tu mets à nu le film en train de se faire, et c'est un risque, et la présence des archives par exemple que j'y découvre et enfin, il, avec toi, face à la caméra. Et c'est un moment émouvant, car il s'agit à aucun moment, donc dans le film, de redire l'histoire comme, comme une vérité. Tu laisses l'histoire se raconter par lui, par vous, comme ça.
Oui, ouais, bah c'est un peu effectivement dans cette idée-là que de... Enfin, comment dire... Je ne pense pas qu'il existe une vérité objective, ni de son histoire, ni de l'histoire en général, enfin, ni de ce à quoi touche son histoire, on va dire. Donc, effectivement, globalement, je pense, enfin, tout le mouvement du film tend toujours vers une transmission, enfin, une espèce de jeu de transmission, de subjectivité et d'interprétation à partir de... d'un lieu, d'un document, d'une situation, enfin d'une mémoire. Mais il y a cette idée un peu de... que je pense que... Ouais, que y a... c'est impossible, en fait, un vrai récit objectif. Donc, c'est l'ensemble, de toute façon, de la trilogie essaye un peu comme ça de poser la question du portrait en se disant que... en essayant d'aborder ça à travers des dispositifs différents.
Et alors, après le coup de téléphone, lorsque Gia se retire du projet, le documentaire à partir de là devient impossible, comme tu l'as dit, et alors naît une mise en récit, et tu interroges son histoire à ce moment-là à travers la mise en regard du récit de trois jeunes hommes qui questionnent l'histoire de leur famille et de leur judéité en écho à celle de Gia. Alors, selon toi, comment le cinéma ou là, ce film peut interroger, voire peut-être ici, sauver la transmission, la mémoire ?
Enfin, il y a beaucoup... C'est, en filmant, quelque part, quand je pense à ce moment-là, enfin, à ces trois jeunes-là, en filmant leurs émotions, leur façon de raconter, leur visage. Et tout ça, ça ne fait pas partie d'un récit objectif. Et c'est à partir de ça aussi qu'émerge le troisième dispositif un peu du film, qui est une sorte de dispositif de... qui est complètement de la fiction, en fait. Et il y a cette idée que, que quelque part, le cinéma, prend le relais d'une mémoire plus subjective qu'objective et plus...
collective.
Ouais, aussi, une sorte de, ouais, de somme de subjectivité qui forme une autre... une autre façon de raconter ensemble, quoi.
Et alors, comment s'est passée la rencontre avec ces jeunes hommes qui étaient censés incarner Gia ?
Bah, plutôt très bien, en fait.
C'était un casting. C'est filmé comme...
C'est filmé comme un casting. En même temps, depuis le début, ils étaient au courant que c'était une sorte de casting complètement déplacé, dans le sens où il n'était pas du tout question de ressemblance physique. Il était vraiment question d'essayer de trouver des échos entre les histoires. Parce que c'est un peu aussi tout ça le projet du film tout le temps, c'est-à-dire d'essayer de se balader, de passer d'une histoire à l'autre, etc. Et ça, c'était clairement dit dans ce qu'on leur a proposé pour venir participer, en fait. Donc, j'ai travaillé avec une directrice de casting qui s'appelle Johanna Krudzinska et qui a l'habitude de travailler avec la communauté juive, donc qui connaissait un certain nombre de jeunes. Et on avait envie comme ça de rencontrer des gens qui vivaient leur judéité de façon très différente. Et ça s'est avéré assez intéressant, en fait, parce que ils avaient tous des façons de réagir à l'histoire qu'on leur racontait très différentes selon leur propre histoire, en fait. Parce que, en fait, donc dans cette espèce de faux casting qui n'est pas vraiment un casting, on leur raconte le récit tel que Gia l'a écrit, donc ce fameux récit, ce livre qui est ce grand récit plus chronologique. Et on leur propose de faire des ponts avec leurs propres histoires. Et c'était assez instinctif, en fait, la façon dont ça s'est passé. Enfin, il y en a qui sont restés très peu de temps, des plus, enfin, certains qui sont restés 2 heures. C'est-à-dire que il se trouve que Selim, qui est le jeune qui reste plus longtemps dans le film, avait très envie d'entendre cette histoire. Enfin, en fait, quelque part, enfin, ça créait des échos intéressants aussi parce qu'ils étaient peut-être moins convenus. Ouais. C'était moins évident, en fait. Et en même temps, il y avait des endroits qui étaient très évidents dans les connexions entre son histoire et celle qu'on lui racontait.
Et ensuite, comment s'est passé le moment du film ou les moments où vous êtes dans ce paysage suisse? Il est seul, donc, dans ce paysage. Et c'est un moment... ce sont des temps très à part dans le film. Comment vous avez tourné ça?
Alors déjà, c'était assez surprenant parce que c'était quand même plus tard. En fait, c'est un film qui s'est fait vraiment... qui s'est pas mal étendu, le tournage, dans le temps. Et en fait, il se trouve que cette partie à la montagne s'est tournée pour des raisons de production. Plusieurs années après la partie casting. Lui avait grandi, le film avait changé, etc. Donc c'était aussi, moi je trouvais ça très intéressant par rapport au projet. On a pas mal parlé de ça ensemble, justement dans cette idée que de toute façon les choses, enfin c'est pas du tout une appréhension linéaire d'une vie. Donc en fait, s'il y a des choses qui viennent se dessiner en creux ou dans des zones d'ombre ou des zones cachées comme ça, enfin quelque part ça peut être Selim aussi 3 ans plus tard ou enfin. Donc, finalement, moi, c'était ma première expérience de quelque chose de plus écrit que d'habitude, de plus fictionnel. Et donc, je pense que c'était encore très empreint d'une technique un peu documentaire. Je saurais pas comment dire, c'est pas vraiment technique, mais disons que je me serais pas vue complètement diriger, avoir des, enfin lui demander de façon, ça m'aurait semblé trop autoritaire de lui demander de ressentir ceci ou cela à tel ou tel moment. Donc c'était plus en fait lui, son interaction avec les endroits dans lesquels on était, on discutait de comment ça pouvait faire écho à quoi, et puis à partir de là, on...
Et de façon interne pour lui et picturale dans le film, puisque là, il n'y a pas de parole.
Ouais.
Il vient revivre des moments mis en scène.
Ouais, complètement, et en même temps, vraiment dans une... Enfin, moi, j'ai toujours un peu envisagé ces moments-là comme une sorte de rêve. En tout cas de moments comme ça un peu flottants où il y a des choses, des éléments de ce qui s'est dit dans les autres parties du film qui viennent se rejouer donc un peu différemment, et donc c'était aussi ça qui était laissé à la rencontre de nos deux interprétations, on va dire. Ouais. Après il y a cette idée comme ça de, c'est presque, il y a des moments où il est presque comme un, quand il est plus comme une silhouette, il vient quelque part un peu incarner toutes les histoires possibles. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi un jeu de avant et après qu'on mette un visage sur cette silhouette. Et je savais que pendant le tournage, je savais que qu'il allait s'agir de varier avec ça, mais je savais pas encore comment ça allait, dans quel ordre ça allait arriver dans le film.
Voilà. Ça commence par un de ces moments d'ailleurs.
Ça ouais, commence tout par à fait.
Un de ces moments où il est.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Penché sur l'eau. Et alors qu'a pensé J.A. Du film de cette deuxième temps à partir de la rupture.
Bah en fait ce qu'il exprime, alors enfin un peu clairement dans la suite de ce moment de rupture, c'est qu'il veut, il veut plus, d'un coup, il ne veut plus entendre parler de ce film. Il veut bien me le laisser et faire et que j'en fasse ce que je veux. Et du coup, je lui en ai plus donné de nouvelles, mais parce que c'était clairement sa demande, en fait.
Et donc, il ne l'a jamais vu ? Il l'a jamais vu.
Non, mais il a un caractère assez fort. Hein, comme on peut. Et donc, il m'a clairement, plus que clairement, demandé de ne plus lui en parler. Mais en précisant.
Oui.
Mais quelque part, je pense que ça m'a laissé. Enfin, ça laisse aussi une liberté. Enfin, je trouve ça assez beau, moi, ce mouvement où, justement, où il laisse son histoire partir avec d'autres histoires. Et puis après, ça m'a aussi laissé, quelque part, la liberté de travailler avec Selim. Je ne sais pas très bien comment ça aurait été. Je pense que ça aurait été compliqué.
Et alors, le film vient raconter deux temps, un peu, celui de la vie d'un homme et celui d'un film. Et il y a un anachronisme entre son urgence de vivre en prenant son temps, puisqu'il te dit on n'a pas la même notion du temps avec 30 ans d'écart, ou, plus que 30 ans d'écart, 50 ans, 55. Et la réalité d'un film qui va venir enregistrer et préserver à la fois le passé et sa voix à lui aujourd'hui, mais dans un temps délimité. Et donc ça se fait dans un lien entre vous deux. Mais tu vois cet anachronisme dont je parle. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il s'est retiré. Il y a une...
De ces deux temporalités qui viennent un peu coexister.
Celle du film et celle de lui, dans un homme qui est à la fin de sa vie.
Ouais. Mais lui, il le souligne assez bien. Et c'est vrai que quelque part, j'en suis pas consciente quand lui l'énonce. On n'est pas... On n'a pas du tout la même... Moi, je lui dis, oui, mais un film, ça prend du temps. Et lui, il me dit, mais du temps, j'en ai pas, en fait. Et ça fait partie de ces espèces de sautes, ces espèces de façon de... Ouais, de passer... d'appréhender un récit à travers une somme de temporalités différentes. C'est un peu quelque chose qui est constitutif du film.